Alors, juste pour dire à ceux qui posaient la question de la trame écrite, si vous pouvez la voir, je pense que tout va être envoyé, disponible, si vous le voulez. Soit vous irez le chercher sur le site, soit vous donnerez votre adresse à quelqu'un et vous aurez accès. Notre deuxième session, certainement moins théorique, plus aux prises, je l'espère, avec vos préoccupations professionnelles quotidiennes. Je ne vous garantis pas, mais si j'arrive à être un peu plus court, il y aura plus de temps pour l'échange, ce qui sera une bonne chose. L'application de la pensée chrétienne au métier de l'enseignement. J'ai déjà souligné qu'un des thèmes d'étude, lorsque j'étais... Développement de l'éducation pour les pays en voie de développement, c'était le titre en anglais. C'était donc le pluralisme culturel et religieux à l'école. Le rôle des a priori dans les manuels, la façon dont les manuels étaient rédigés, etc. L'objectif était de servir les écoles chrétiennes pour enfants de missionnaires dans un pays à majorité non chrétienne. Mon expérience de ce domaine, je l'ai déjà dit, c'était donc au Pakistan. Et donc mon interaction, il y a eu de nombreuses interactions avec mon travail depuis. Notamment le fait d'être appuyé sur une idéologie fortement minoritaire dans le contexte laïque de l'hôpital et puis de l'école de mes enfants, lors de mes engagements. On parlait tout à l'heure d'occasions, de petites ouvertures en milieu laïque, en milieu de l'éducation publique, à l'expression de la foi. Ayant été donc impliqué de la maternelle à la primaire dans l'éducation maternelle à la première, pour être précis, mais j'étais très présent à l'école primaire en tant que parent d'élève, et j'étais aussi, bon, la presse aimait bien, autour du 1er décembre, parler du SIDA et de cette association Signes de vie SIDA qui était sous la responsabilité d'un pasteur. Alors, j'avais plein d'amis homosexuels, des personnes touchées par le sida et qui l'étaient de manière visible et qui n'hésitaient pas à témoigner, donc personne ne pouvait m'accuser d'homophobie, mais c'était quand même un peu, ça attirait un peu pas mal d'attention, et le directeur de l'école primaire de mes fils avait relevé ça et il était venu me voir après un conseil d'école un jour en disant, Monsieur Hanley, mois prochain, il y aura le 1er décembre et nos élèves vont à nouveau voir tout défiler tous ces trucs à la télévision et je sais que les parents ils racontent tout et n'importe quoi. Je sais que vous êtes pasteur, mais vous ne viendriez pas dans l'école parler du sida. Voilà, petite occasion. Alors bon, on a parlé de quoi? On a parlé de qu'est-ce que ça voulait dire que tomber amoureux, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça impliquait qu'embrasser sur la bouche, on a parlé de ces choses-là qui pour les 7, 8, 9, 10 ans étaient du quotidien, de leur expérience télévisuelle, de leur discussion entre camarades. Et c'était, évidemment, moi je n'ai pas annoncé l'évangile aux enfants. Mais pétard ce que j'ai eu des occasions d'annoncer l'évangile aux profs, aux enseignants et au personnel. De la maternelle, j'ai deux fils et de la maternelle au CM2, j'ai donc fait 9 ans dans le même contexte scolaire en tant que parent d'élève. Donc j'ai vu passer des enseignants. Et c'est vrai que ça creuse. Et souvent quand les gens tout de suite érigent cette idée de « Ah mais c'est l'école publique, c'est laïque ». On n'a pas le droit ? Oui, d'accord. Il y a quand même pas mal de possibilités, d'ouverture. Quand on articule notre foi d'une manière cohérente, quand nos gestes, quand on nous donnons l'occasion à ceux qui nous observent de vérifier l'authenticité de nos propos, la cohérence de nos paroles et de nos actes, beaucoup de choses s'ouvrent. Quels sont les points ? On va commencer par évoquer les points d'interaction entre la foi chrétienne et l'enseignement. Tout d'abord, il y a, c'est la base, on va dire, l'importance biblique des enfants. Matthieu 19, verset 13, « Alors des gens amenèrent à Jésus des enfants, afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les rabrouèrent. Alors Jésus dit, « Laissez faire les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme eux. » Il leur imposa les mains et partit de là. La Bible affirme l'importance des enfants et c'est un constat qui inspire énormément pour moi de l'éthique chrétienne qui me pousse à l'action, à la réflexion et à l'action. Jésus, Dieu dans la parole, est constamment du côté des petits, des faibles, des démunis. Dieu est toujours du côté des plus petits, des plus faibles, des plus démunis, y compris par exemple les enfants. Cela vaut aussi pour les pauvres, cela vaut aussi pour ceux qui n'ont pas d'éducation par rapport à ceux qui en ont. Mais on y reviendra, parce que j'aimerais évoquer avec vous des notions aussi de... Quand on parle du politique dans l'école, on parle aussi de choses comme discrimination positive, il y a des situations très réelles qui sont parfois difficiles et compliquées à gérer. J'ai une amie qui est enseignante, elle n'est pas là ce matin, elle m'a dit qu'elle passerait peut-être, elle est en région parisienne. Alors, il y a quelques temps, j'ai pris le téléphone, j'ai dit, bon, écoute, j'ai des interventions à donner, tu vas... Qu'est-ce que tu peux me dire de ta pratique? Bon, elle est enseignante en poste depuis... C'est recyclé, donc je crois 3-4 ans maintenant. Et je lui ai posé plein de questions sur sa façon de vivre sa foi, etc. Je savais qu'elle avait toute une réflexion assez poussée sur ce sujet. Et une des choses qu'elle a relevées, auxquelles je n'aurais pas moi pensé, c'est pour ça que je la cite, c'est à quel point en tant que chrétienne, elle est sensible au regard... Pardon, elle est sensibilisée par la façon dont les enfants sont sensibles au regard de l'adulte sur eux. Et cela rejoint un des points vitaux, un des points névralgiques de cette articulation entre la foi et l'enseignement, qui est la façon dont nous valorisons la personne que nous avons devant nous. Pour quelqu'un qui vend du produit... la personne, le client est toujours un acheteur potentiel. Lorsque un enseignant a devant lui ou elle quelqu'un, un vis-à-vis qui n'est pas un acheteur, qui n'est pas un client, mais qui est néanmoins le public cible de son activité professionnelle, et puis qu'il y en a 30 ou 20 ou plus, la façon dont nous regardons l'autre, la façon dont lui accordons une valeur, plus ou moins de valeur, sera informée par nos propres valeurs, nos propres façons de voir le monde, nos propres références. Les enfants sont particulièrement sensibles au regard des adultes. Je pense que c'est ce que ce texte de l'Évangile que je viens de lire est en train de nous dire aussi. Jésus portait sur les enfants un regard bien particulier, un regard complètement atypique pour son époque. Et bon, vous allez me dire, c'est valable pour n'importe quel chrétien, oui. Mais n'est-ce pas d'autant plus valable pour quelqu'un qui passe sa vie, ou presque toute sa vie professionnelle, en tout cas son activité professionnelle, à regarder des faibles, des démunis, des personnes qui sont en situation de sensibilité, de susceptibilité, de vulnérabilité, on va dire, au regard de la société, de l'adulte et de leur père. Deuxième grand thème où la foi et l'enseignement se rejoignent, c'est la transmission du savoir. Je ne vais pas rentrer dans un débat de spécialistes autour de la transmission du savoir, transmission des compétences, transmission des connaissances. Je sais qu'il y a tout un débat, discours, beaucoup d'enjeux différents. J'aimerais néanmoins faire référence à un livre que j'ai acheté il y a pas mal d'années et que j'ai relu pour les besoins de ce que nous faisons aujourd'hui. C'est un livre justement que j'avais acheté, c'était début des années 2000, alors que j'étais vraiment... très au contact des écoles dans lesquelles étaient mes garçons. C'est un philosophe, un professeur de philo en terminale qui s'appelle Adrien Barrault, qui a écrit cet essai « L'enseignement mis à mort ». Et c'était juste après tout un esclandre où le ministre de l'Éducation à l'époque, Claude Allègre, avait dit dans une interview donnée au Monde en 1999, il avait parlé de toutes les réformes qu'il voulait lancer, et il parlait de cette façon dont les attentes des élèves par rapport aux, enfin de la société par rapport aux enseignants avaient complètement changé. Il parlait de cette tendance archaïque, et je le cite, que l'on peut résumer ainsi de la part des enseignants. Ils n'ont qu'à m'écouter, c'est moi qui sais. Les propos du ministre de l'Éducation, hein, là je cite. Ils n'ont qu'à m'écouter, c'est moi qui sais. C'était lui une façon de critiquer cet absolu d'une connaissance, d'un savoir que l'enseignant, du haut de son prétentieux orgueil, prétendrait transmettre ou devoir transmettre ou vouloir transmettre à des gens qui de toute façon étaient bien allés dans les attentes, allaient bien au-delà de quelque chose d'aussi facile, d'aussi petit. Et cette phrase a suscité un profond malaise à l'époque parmi les enseignants. Je me souviens de la façon dont le mot Claude Allègre était prononcé par les enseignants que je côtoyais à l'époque dans le public. Cette phrase avait suscité un profond malaise, et toute son approche avait suscité un profond malaise, et pour faire passer des réformes, le gouvernement l'avait simplement remplacé. Mais si j'ai bien compris, comme on l'a dit, le fond de ces réformes a quand même fait du mal. Il supposait, par cette phrase, que le savoir de l'enseignant n'avait aucune valeur intrinsèque. Alors, Adrien Barrault, l'auteur de ce livre, j'y reviendrai dans quelques instants lorsqu'on parlera de laïcité, n'a rien de chrétien dans ce qu'il affirme. Il part de tous les présupposés du fait que nous vivons dans un système où toute mention de Dieu, de la religion, de la superstition est archaïque, dépassée. Ça fait entièrement partie de ces présupposés. Mais il rejoint, j'ai été étonné de la façon dont, ayant enlevé toute autorité extérieure à l'expérience humaine, il affirme néanmoins dans ce livre une sorte d'absolu du savoir qui doit pouvoir être transmis. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais le problème donc avec cette phrase du ministre de l'Éducation de l'époque, c'était qu'il avançait l'idée que l'enseignant n'avait aucune valeur, que le savoir de l'enseignant n'avait aucune valeur propre, aucune valeur intrinsèque. C'était peut-être de la part d'un politicien de la pure démagogie. Quand il s'agit de voter, les parents d'élèves et les anciens élèves seront toujours plus nombreux que les enseignants dans la masse des votants. Mais ça correspond à un sentiment courant. Peu de personnes aiment la contrainte d'apprendre. Cela vaut aussi dans notre pratique de la vie chrétienne, notre façon d'aborder la Bible. Peu de personnes aiment la contrainte d'apprendre. J'ai lu un commentaire, c'était un mémoire de thèse de doctorat de quelqu'un qui parlait d'un des écueils principaux, un des problèmes principaux qui fait échouer nombre d'élèves aujourd'hui, c'était pas du tout quelqu'un de chrétien qui écrivait, hein, c'est l'idée qu'il nous faut être satisfait vite et bien. C'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. C'est une idée qui est aux antipodes de la façon biblique d'aborder le savoir, la transmission du savoir, et qui diminue, qui amoindrit le rôle de l'enseignement et la transmission du savoir. La transmission du savoir dans la Bible est évoquée de différentes manières. Elle est dans l'Ancien Testament fortement affirmée autour de la table familiale. Tu dis, lorsque tes fils te demanderont, tu leur diras, c'est pour ça. Et donc la transmission de la foi, de l'identité culturelle, se transmettait de parents en enfants, en fils, en filles. la sagesse des proverbes, il y a tout un enseignement sur la manière, sur la valeur de la sagesse et de l'intelligence qui commence par le respect de Dieu, mais qui se répand dans tous les domaines de la vie, y compris la vie professionnelle, le commerce, la vie sociale. Dans le Nouveau Testament, c'est le modèle du discipula qui est fortement mis en avant, l'enseignant qui dit, qui parle, qui a les mots et qui a les gestes qui vont avec et qui montre comment faire. Et c'est repris non pas, c'est évidemment pas seulement Jésus et ses disciples, mais également dans toute la réflexion de Paul, enfin tous les enseignements de Paul sur le mentoring et la façon dont il parle notamment de sa relation avec Timothée. Historiquement, quelle a été la contribution de la foi chrétienne à la transmission, à l'éducation? Historiquement, la valeur chrétienne de la justice sociale a beaucoup touché le milieu de l'éducation. Je pense à cet élément qui a vraiment frappé mon imagination. Au XIXe siècle, paraît-il, je n'y étais pas, la démocratisation de l'école faisait peur. C'était l'époque où il y avait des grandes révolutions dans la façon dont les gens concevaient l'école. Et la démocratisation de l'école faisait peur, car l'idée était assez répandue que si les pauvres savaient lire et écrire, ils auraient des prétentions qui bouleverseraient l'ordre social. Ils voudraient s'enrichir, ils voudraient accéder à des postes à responsabilité qui auparavant étaient réservés à une certaine élite, et ça ne pouvait pas se faire. Et ce sont les chrétiens qui, en grand nombre, certainement pas de manière systématique, mais en tout cas en grand nombre, se sont opposés à ce genre d'idées, affirmant que l'éducation, au contraire, favorisait l'ordre social. Parce que donner du sens, donner une prise sur la vie, sur l'existence, sur le contexte, sur l'environnement social qui permettait à l'individu de trouver du sens que le fait d'être illettré, d'être analphabète ne lui permettait pas d'avoir. Je pense à mes cours à la fac où j'ai étudié sous un prof qui était Quaker. Vous savez, les flocons d'avoine, Quaker Oats. Voilà, il y a des Quakers qui se décrivent souvent, enfin leur dénomination officielle généralement, c'est la Société des Amis ou Association des Amis. C'est une sorte de façon qu'ils ont de se décrire. Et donc, ce professeur qui était vraiment inspiré par une éthique chrétienne. Au niveau théologique, un des principes des Quakers, c'est de ne pas être attaché à la parole de Dieu, à la Bible, comme étant inspirée, comme étant la doctrine, et que c'est l'inspiration de Dieu directement en être humain. Donc il y a chez beaucoup de Quakers des dérives assez lointaines, assez éloignées de la foi biblique évangélique. Et cet homme... C'est un universaliste fini. Et nous avions de grands débats. Alors, ce diplôme était mis en place pour des personnes qui avaient déjà une certaine expérience de l'éducation. Il se trouve que j'étais le plus jeune de la classe. J'étais le seul occidental d'une classe de 30 à 40. D'une promotion de 30 à 40, j'étais le seul occidental, j'étais le plus jeune et j'étais le plus grand. Alors sur la photo de classe, ça donne vraiment, ça fait bizarre. J'avais plein de dames africaines dans mon cours qui avaient des fils de mon âge à la maison, qui étaient malades de leur famille, leur manquait. Et qui m'affirmait à maintes reprises en me faisant mon café à la pause, plein de choses comme ça. Oh, tu me rappelles mon fils, tu me rappelles mon fils. Et j'ai gardé de très profondes amitiés de cette époque. Pour revenir à ce prof nous a dit la chose suivante, et c'était son éthique chrétienne qui informait son approche de l'éducation. Le degré de développement futur d'un pays est directement proportionnel à la part du budget national consacré à l'éducation, comparé à la part du budget national consacré à la défense. Vous avez suivi? Il faut dire que c'était l'époque où Margaret Thatcher, au Royaume-Uni, venait pour la première fois depuis mémoire d'homme, si j'ai bien compris, depuis mémoire de vivant, venait d'inverser cette tendance. Et donc les commentateurs avaient bien observé qu'elle venait de consacrer un budget plus important à la défense qu'à l'éducation. Mais il disait voilà pourquoi il étayait donc son propos. Et il parlait là, en tant que personne inspirée de principes chrétiens, à des personnes qui allaient être les futurs ministres de l'éducation, je ne sais pas quoi, mais en tout cas allaient occuper des postes très importants dans leur pays d'origine. La plupart, vous l'avez compris, n'étaient pas européens. Et ils allaient occuper des postes très très importants en responsabilité. Et beaucoup étaient chrétiens, beaucoup se disaient chrétiens. Et d'avoir une sorte d'assise chrétienne à la façon dont ils allaient mettre en œuvre, certains allaient être appelés certainement à mettre en œuvre des politiques d'éducation dans leur pays. Et j'ai trouvé là un point d'interaction entre l'éducation et les principes de foi chrétienne très 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 intéressant. Cette affirmation comporte des implications majeures pour de nombreux enseignants chrétiens dans ces pays. Là, je ne parle pas du 19e siècle, je parle du 21e siècle. Les valeurs chrétiennes en faveur du pauvre, du démuni, du petit, du faible, entraînent des implications importantes dans ce genre de situation. Il y a un livre que les PBU ont publié il y a pas mal d'années, qui s'appelle « Jésus et le politique » et « le politique » de John Yoder. Donc, « The Politics of Jesus » en anglais. Considérez...
On a quelques exemples.
Un livre considéré, je pense par exemple à un sondage, un rapport que j'ai lu dans la presse évangélique américaine à la fin des années 90. C'est un des livres qui est considéré comme un des 100 livres chrétiens les plus importants du XXe siècle. Là, il est ici, vous en avez quelques exemplaires à vendre dans la salle derrière moi. C'est pas beau ça? The Politics of Jesus, Jésus et le politique. Parce que dans l'éducation, il y a énormément de politique, non pas de la politique, mais du politique. Et ça alors avec les autres parents d'élèves, c'était un débat constant. Je vais citer deux cas où le politique, l'école et la foi entrent en interaction, où les principes chrétiens entrent en interaction les uns avec les autres, donc des situations que moi j'ai connues et j'ai vues. C'était vers 2001, je me souviens, le conseil d'école devait décider de l'utilisation des euros de la coopérative scolaire pour acheter soit des ordinateurs, soit subventionner la classe de neige. Alors, la classe de neige, voilà, subventionner le séjour de ski ou acheter des ordinateurs. Alors là, il y avait un clivage très net entre les parents FCPE et les parents indépendants. En sixième, ils ont tous rejoint la PEP. Mais ça, c'est une autre histoire. Excusez-moi de laisser transparaître mes sensibilités. Je suis désolé. Mais donc, les parents FCPE voulaient acheter des ordinateurs parce que de nombreux élèves dans cette école n'avaient pas d'ordinateur à la maison. C'était 2001, souvenez-vous. Encore aujourd'hui, ça existe peut-être, mais 2001, beaucoup, selon le milieu social d'où on venait, c'était pas évident qu'on ait un ordinateur à la maison. Et évidemment, les parents indépendants voulaient utiliser cet argent-là pour subventionner le séjour de ski de leur progéniture. c'était là du politique, c'était là des questions éthiques, des questions de priorité, des questions de comment mes valeurs, mes principes d'égoïsme ou de politique, de justice sociale allaient influencer une décision que je prenais dans un contexte scolaire. Deuxième exemple, tout simplement, j'ai connu beaucoup d'enseignants, beaucoup d'enseignantes, et donc mes fils au collège ont été scolarisés en ZEP, donc, comme beaucoup de ZEP. Donc, en plus, ils sont tombés dans des classes avec de fortes proportions de primo-arrivants. Je ne sais pas si au collège ça se passe toujours comme ça, mais c'était le cas. Et je me souviens d'avoir eu des discussions avec des enseignants, je pense surtout à une enseignante, on a des affinités avec les uns ou les autres, et donc quelqu'un avec qui on avait trouvé pas mal d'atomes crochus, en même temps on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde surtout, donc ça suscitait un débat très intéressant. Mais c'était quelqu'un qui était convaincu de la justesse d'une discrimination positive. C'était très clair. Si vous étiez une jeune, si vous étiez une élève maghrébine dans sa classe, elle vous consacrait beaucoup de temps et d'efforts. Si par contre vous étiez un jeune garçon blond aux yeux bleus avec des parents derrière, vous aviez beaucoup, elle allait beaucoup moins consacrer d'attention et beaucoup moins développer le potentiel de cet enfant-là. C'est le politique dans le contexte scolaire. C'est une question d'éthique, c'est une question de justice sociale. Toutes ces choses entrent en jeu. Et là, par contre, je n'ai pas de réponse. Vous avez compris mes sensibilités pour le premier cas de figure que j'ai évoqué. Le deuxième cas de figure, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que moi j'aurais fait si j'avais été à la place de cette enseignante. J'ai fait du soutien scolaire en centre social. On parlait tout à l'heure d'expliquer le christianisme aux enfants. Moi, j'ai expliqué l'islam à des jeunes musulmans qui faisaient le ramadan, mais qui ne savaient rien, mais alors rien du tout de ce qu'ils faisaient. Mais ce que j'aurais fait, ce que devrait faire, je pense qu'en tant que chrétien, et ça, c'est un des défis que vous allez certainement avoir en tant que réseau d'enseignants chrétiens, il n'y a pas de « le chrétien devrait faire ». J'ai voulu évoquer cette histoire justement pour ça. Pas juste pour illustrer un point où la foi, le politique et l'éducation sont en interaction, mais parce que lorsqu'on est devant de vraies situations, de vrais enjeux sociaux, éducatifs, enfin appelez ça comme vous voulez, différents chrétiens vont avoir différentes réponses à la question. Et un des défis de tout réseau qui rassemble des personnes d'horizons différents autour d'un projet commun, c'est d'arriver à regarder l'autre qui a fait un choix complètement différent en disant, ben ok, c'est pas pour ça qu'on n'est pas d'accord, c'est pas pour ça qu'on n'est pas frère ou qu'on ne s'estime pas, se respecter quand même. Un autre enjeu, c'est qu'en tant que chrétiens, nous voulons régler les problèmes chez les gens. Jésus est venu racheter les perdus, nous voulons que tous les perdus soient rachetés. Jésus est venu guérir les malades, nous voulons que tous les malades soient guéris. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes, nous voulons que tous les hommes entendent la bonne nouvelle. Les femmes aussi, ça peut aider. Nous voulons faire ce que... Nous voulons avoir une influence dans la vie des gens que nous avons en face de nous. Alors, en tant qu'enseignant, vous allez aimer, comme disait mon ami que j'ai consulté au téléphone, je les aime, mes mômes. Et vous allez être pétri de ce sentiment de vouloir d'aimer des gens qui ont besoin de votre amour et qui parfois sont là, émotionnellement parlant, à vous tendre les bras, même à 15 ans. Aime-moi, aime-moi. Et vous allez, en tant que chrétien, avoir doublement envie de répondre à cette interpellation. Alors, vous allez être obligé de placer des limites. Ce genre de relation où l'affectif entre en jeu est toujours plus facile pour les femmes que pour les hommes. Je vous assure, si certaines des femmes enseignantes de mes deux garçons avaient été des hommes en train de dire des choses semblables ou d'avoir la même relation avec mes enfants, si mes enfants avaient été des filles, ben, il y aurait eu des problèmes, il y aurait eu du grabuge. Donc je sais, ce que je veux dire, c'est que les enseignantes, les femmes, avaient socialement le droit, on va dire, hein, d'avoir une attitude vis-à-vis des élèves, garçons et filles, que des enseignants hommes n'auraient pas eu le droit d'avoir. Ça, c'est une considération. Je sais que le jour où moi, en tant que papa, j'ai répondu à l'appel de la directrice de l'école maternelle pour des volontaires parmi les parents pour lire, pour animer la bibliothèque de l'école. Voilà. Ben, ça, c'était fait depuis des années et des années avec des mamans. Moi, je me suis porté volontaire. Ben, quelques temps plus tard, ça ne s'est plus fait. L'école n'a plus fait appel aux parents. Et je soupçonne fortement qu'il y avait des... On ne connaît pas ce monsieur. Évidemment, il y avait rien d'autre que ça, mais on ne connaît pas ce monsieur. Mais moi, après, j'ai pensé, ben oui, effectivement. Je ne suis pas sûr. J'ai automatiquement confiance qu'une maman prenne mes enfants à l'âge de la maternelle sur ses genoux. Mais un papa, est-ce que j'ai confiance? Est-ce que moi, j'aurais confiance? je comprends un petit peu ce genre de méfiance. C'est pas en faisant semblant que ces choses-là n'existent pas qu'on les règle. C'est pour ça que j'en parle de manière ouvertement. Je laisse l'interrogation en suspens un petit peu. Dans ce même domaine, l'enseignant n'est pas un éducateur. Ça, c'est pas, je suppose que vous l'avez entendu 36 000 fois déjà. Mais c'est une tentation. On aimerait régler le problème social chez la personne qu'on a en face. Il y a certaines professions qui sont peut-être plus en place pour ça que l'enseignement. L'enseignant doit connaître les limites de son implication dans la vie de ses élèves. Et je pense que c'est une considération plus importante encore pour l'enseignant chrétien. La valeur chrétienne de l'humain. On ne peut pas parler de l'interaction entre la foi, l'enseignement et l'enseignement sans parler de la valeur chrétienne de l'humain. On ne va pas repartir dans les textes de l'Ancien Testament qui fondent l'anthropologie biblique, la valeur de l'humain devant Dieu. Mais c'est sûr qu'en tant que chrétien, nous portons un regard sur l'autre, sur ce qui fait sa valeur, qui passe par les yeux de Dieu. Nous sommes appelés à voir l'individu, homme, femme, garçon, fille, pauvre, riche, noir, blanc et toutes les couleurs intermédiaires, avec les yeux de Dieu qui a créé cette diversité et ce foisonnement d'humains. Nous vivons dans une société qui valorise l'individu en fonction de sa capacité de séduction, de son compte en banque, de sa réussite professionnelle, mais ça commence bien avant avec la réussite scolaire. Évidemment, je sais très bien que c'est plus facile d'enseigner une classe d'élèves qui en veulent, tous les soirs ont maman et papa derrière pour les aider à faire leurs devoirs, pour leur expliquer quand ils ne comprennent pas, pour les suivre, qu'une classe où il y en a pas mal qui parlent mal français ou qui de toute façon passent leur temps devant des jeux vidéo ou à traîner dans la rue. Et bon, je sais quelles sont les difficultés réelles. Et en tant que chrétiens, nous sommes néanmoins appelés à voir les gens avec les yeux de Dieu. Et là encore, je n'ai pas de réponse facile. Et dans les questions que j'avais vaguement dans ma tête, dans le train en venant, je vais regarder le programme, je me dis « Ah mince, il y avait peut-être un temps de questions en petit groupe. » Quand tu as dit « Est-ce que j'en avais préparé ?» Non, mais j'avais réfléchi un petit peu. Si tu m'avais dit « Il faut que tu en donnes », j'en aurais donné. Mais, et ça faisait partie un petit peu de ces questions. Comment aimer et estimer l'autre ? Comme on devrait, même quand il n'est pas aimable ou facile. L'éducation doit-elle préparer les élèves à vivre bien ou à vivre productif? Ça, c'est une question que vous allez constamment devoir aborder. Quel est le rapport entre ces deux objectifs? Vivre bien, vivre productif. J'ai parlé de la valeur des élèves, mais il y a aussi la valeur des enseignants. Votre valeur, le regard que la société porte sur le métier d'enseignant, le regard du ministère de l'éducation. Je pense à la peur d'être jugé par rapport aux attentes de résultats. J'ai dit tout à l'heure qu'un enseignant chrétien qui n'est pas un très bon enseignant n'est pas un très bon chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire être bon enseignant? Est-ce que ça veut dire est-ce que c'est uniquement évaluable en fonction des résultats du bac? Évidemment, je pense que non. C'est tout un débat. Je pense à mon ancien professeur d'allemand, un excellent prof. Un prof qui a marqué toute une génération de ceux qui sont passés par ses cours, qui passait autant de temps à parler du fascisme qu'à nous enseigner l'allemand, l'année où je l'ai eu en tout cas, et qui était présent à mon baptême d'ailleurs, quand j'ai été baptisé à la fin de mon année de terminale. Et c'est quelqu'un qui a pris sa retraite 3-4 ans après que j'ai quitté le lycée. J'ai gardé le contact pendant quelques années, et je sais qu'il s'est laissé mourir de lassitude, de solitude et d'ennui à la retraite. Parce que tout ce qui comptait pour lui, c'était ses élèves et c'était sa carrière d'enseignant. Et le jour où il n'a plus eu ça, la vie, il ne supportait plus la vie. Et je me suis toujours interrogé sur la manière dont pour lui, sa qualité humaine d'enseignant était extraordinaire. Et pourtant, il manquait quelque chose de fondamental dans sa façon d'aborder la vie. Et en tant que chrétien, là aussi, nous avons quelque chose à dire. Foi et laïcité. On ne peut pas terminer sans aborder cette question-là. Je me souviens toujours de l'enseignante, je crois que c'était au CE2, d'un de mes garçons qui... Bon, elle me connaissait, donc ce genre de discours, moi j'ai toujours un discours vis-à-vis des parents chrétiens qui me parlent de ce genre de questions. Je dis, ben, si vous êtes là, présent, engagé, aux sorties, à la kermesse, en fait, je ne sais pas dans quoi vous allez vous... Mais si vous connaissez, le dialogue est tellement plus facile que si vous vous présentez comme pasteur, comme chrétien, comme revendicatif vis-à-vis du corps enseignant. Et donc, le jour où cette enseignante, je crois que c'était le CE2, mais je ne suis pas sûr, a parlé, mon fils rentre à la maison, tu sais, la maîtresse nous a parlé de la légende d'Adam et Ève au Jardin d'Éden. Alors, j'ai posé quelques questions, et effectivement, c'était les mille et une nuits, et puis Adam et Ève, quoi. Je veux dire, c'était le Père Noël, Adam et Ève, Jardin d'Éden, tout sur un même plan. Alors je suis allé la voir, je suis dit, vous savez, c'est l'école laïque, vous savez, c'est ne pas faire des choix religieux, ce n'est pas imposer une vision religieuse par rapport à une autre. Oh, vous en faites pas, monsieur Hanley, je leur ai dit que c'était dans la Bible. Pire, enfin, je lui ai pas fait ça, mais si elle s'était entendue, si elle avait compris ce qu'elle était vraiment en train de me dire, voilà, c'était à s'arracher les cheveux. C'est le genre de situation où quelqu'un a relevé ce que je viens de dire. c'est le genre de situation savoureuse, mais en même temps qui nous interroge sur la manière dont on a parlé des occasions qu'on a de présenter les choses autrement, différemment. J'aimerais citer à nouveau ce Adrien Barrault qui parle en non-chrétien et qui dit la chose suivante. Chacun sait que nous ne sommes plus au Moyen-Âge et s'en félicite. Notre enseignement doit faire l'économie du soutien que pouvait donner aux hommes la révélation, avec un R majuscule, dans leur désir de s'élever. Et nous ne visons plus à introduire nos élèves dans la vie du monde futur. Ça c'est de moi, c'est pas de lui. Hein. Mais on sent son ironie hein, dans la manière de s'exprimer. La tâche qui nous échoit n'est cependant pas mince, puisqu'il nous reste à leur donner les moyens d'ouvrir les yeux sur ce monde-ci. Notre enseignement doit faire l'économie du soutien que pouvait donner aux hommes la révélation dans leur désir de s'élever. Je suis sûr que ce monsieur se basait sur la laïcité pour affirmer une telle chose. Mais n'est-ce pas contraire à l'esprit même de la laïcité que de dédicter comme un dogme que le rôle de l'enseignant doit se passer de cet archaïsme qui était le soutien de la révélation dans l'effort humain de s'élever, d'avoir une éducation.